Chapitre 12. Après son service, Bobby va boire quelques sodas au JJ Foley avec deux inspecteurs chargés des enquêtes pour vol. Puis il rentre chez lui, dans la maison de Tuttle Street, où il vit avec ses cinq sœurs et son frère Tim, le prêtre raté. Aucun des enfants Coyne n'est marié. Trois, dont Bobby, ont essayé et ont échoué. Deux ont été à deux doigts de se retrouver devant l'hôtel, mais ne sont pas allés jusqu'au bout. Les deux autres n'ont même jamais eu de relation durable. C'est un grand mystère pour la famille Coyne élargie et les familles auxquelles les générations précédentes ont été liées par le mariage. Les McDonough, les Donnelly, les Kearney, les Mullen, ainsi que pour le quartier dans son ensemble, parce que plusieurs des filles Coyne sont vraiment des beautés, ou en tout cas l'ont été dans leur jeunesse. La maison est l'une des dernières vastes demeures victoriennes à n'abriter toujours qu'une seule famille dans Tuttle Street. La plupart des autres, construites pour de véritables tribus irlandaises entre les deux grandes guerres de la première moitié du siècle, ont été transformées en logements pour deux familles. Certaines ont même été divisées en plusieurs appartements. Mais pas la maison des Coyne. Elle est restée exactement semblable à ce qu'elle était tout le temps où ils y ont grandi, découvrant tous ces grincements, toutes ces cachettes et l'origine de ces tristes gémissements par les impitoyables nuits d'hiver. Ils trouvent Nancy et Bridget assises à la table de la cuisine, en train de siroter leur whisky à l'eau du soir et de fumer leurs cigarettes, Parliament pour Nancy, Kent pour Bridget. Il prend une bière dans le frigo et un cendrier vide avant de les rejoindre à la table. Nancy, qui travaille à l'urbanisme, se plaint d'un collègue auprès de Bridget, qui est infirmière aux urgences du City Hospital. Nancy, toujours aussi canon au début de la quarantaine, peut vous saouler de paroles à n'en plus finir. Bridget, douce, effacée et bourrée en permanence quand elle ne travaille pas, prononce à peine une phrase complète dans la journée. Nancy finit de fulminer contre ce type nommé Félix et la machine à café dans la salle de repos, puis jette un coup d'œil à Bobby.
« Tu as quelques kilos à perdre, Michael. Tu ne penses pas qu'il a du poids à perdre, Bridge ?»
Bridget baisse les yeux sur ses genoux. « Voilà une façon guère gentille de saluer un homme, » dit Bobby en arrachant la languette de sa canette.
« Je veux que t'aies une longue vie. »
« Avant, tu me disais que j'étais trop maigre. »
« Mais ça, c'était l'héroïne !»
Un haut de surprise horrifiée jaillit de la bouche de Bridget.
« Bah, quoi ? C'est pas un secret ?»
dit Nancy. « En fait, si, un peu, » dit Bobby.
« Pour le monde extérieur, » répond Nancy avec un geste en direction des fenêtres. « Mais pas ici !»
Claire entre par la porte sur le côté, venant de l'allée, et suspend son parapluie à un crochet.
Qu'est-ce qui n'est pas ici? On parle du problème de Michael. Cette histoire de drogue?
Claire débouche une bouteille de vin rouge, se sert un verre. Elle embrasse Bobby légèrement, sur la tête, en passant derrière lui pour prendre une chaise.
Oui, cette histoire de drogue, dit Nancy. Il croit qu'on va aller raconter ça à tout le monde.
Pourquoi on ferait ça?
Personne n'a dit que vous alliez faire ça, corrige Bobby. Je trouve juste que c'est gênant d'en parler.
Tu es un sacré héros, dit Claire. Et Bobby est touché de voir Bridget le regarder avec des yeux écarquillés et un vigoureux hochement de tête. Tu sais combien de personnes arrivent à se libérer de cette merde?
Très peu, admet Bobby.
Mais toi, tu as réussi.
Claire lève son verre et boit à sa santé.
Je lui disais juste qu'il pourrait perdre quelques kilos, dit Nancy. Et ça a débouché sur cette histoire.
Mais quelle histoire ? Dit Bobby.
Vous voyez, ça le met en rogne.
Je ne suis pas en rogne.
Si, tu l'es.
Seigneur.
C'est ce que je disais, en rogne.
Bobby soupire et demande à Claire si elle a passé une bonne journée.
On va au-devant d'un foutu merdier,
dit Claire en faisant décrire un petit rond à son verre de vin sur la table.
Je crois que personne ne s'en rend compte pour l'instant.
Claire est secrétaire à la caserne de police de la Metropolitan District Commission de Southsea. Les flics de la MDC s'occupent des plages et des parcs et laissent la criminalité dans les cités aux flics de la ville.
C'est la raison pour laquelle la plupart des flics de la ville pensent que ceux de la MDC sont des lavettes. Mais Bobby a toujours trouvé qu'ils étaient la meilleure source d'informations pour tout ce qui concernait ça aussi.
« Avec cette histoire de busing ?» demande Bobby.
Claire hoche la tête.
« Les renseignements qui nous parviennent sont très inquiétants. Une agitation de masse plutôt inquiétante. »
« Ça va se calmer, » dit Bobby, juste pour se montrer optimiste.
« Je ne pense pas, » répond Claire. « Tu travailles sur la mort de ce jeune homme de couleur, c'est ça ?»«
Ouais. »«
C'était un dealer ?» demande Nancy.
Bobby fait non de la tête.
« Alors qu'est-ce qu'il faisait là ?»«
Sa voiture est tombée en panne. »«
Il aurait dû en prendre davantage soin. »«
Oh, alors c'est sa faute !»
intervient Claire en levant les yeux au ciel.
« Je ne dis pas que c'est sa faute, » réplique Nancy. « Juste que s'il en avait pris davantage soin, sa voiture ne serait pas tombée en panne et il ne serait pas mort. »
Claire insiste. « On a l'impression que tu dis que c'est sa faute. »
« J'ai dit exactement le contraire !»
Claire se tourne vers Bobby.
« Vous allez bientôt procéder à des arrestations ?»«
Non, à moins qu'on ait de gros coups de veine. » On est presque sûr de savoir qui a fait ça. Mais entre le savoir et pouvoir le prouver, tu sais, il y a une énorme différence.
Bon, méfilez-nous le tuyau si vous pensez que vous allez arrêter un blanc de ça aussi aux alentours de la rentrée des classes. Parce que cette ville est sur le point d'exploser.
Elle se verse un autre verre de vin.
Je sais pas, dit-il tout à coup fatigué.
Qu'est-ce que tu ne sais pas ?
Demande sa sœur Diane. Elle arrive par le couloir de l'entrée principale, rentrant de son travail à la bibliothèque municipale de Pam's Corner. Elle va directement à la cuisinière et fait chauffer la bouilloire pour son thé.
« On parle du jeune qui s'est fait tuer à Columbia Station !»
dit Nancy.
« C'est toi qui as hérité de ça ?» demande Diane à Bobby.
« Ouais. »
« J'ai entendu dire que des types de Marty Butler étaient impliqués, » dit Claire.
« Plutôt des gars qui aimeraient bien être des types à lui. Mais... »
Bobby songe à George Dunbar un instant. Si Butler y prend un intérêt personnel, il pourrait créer des problèmes, c'est sûr.
La bande de Butler a des tas de flics à sa solde, à la fois au niveau local et au niveau de l'État du Massachusetts.
Même si vous n'êtes pas un flic corrompu, vous hésitez à contrarier ou dénoncer ce qu'ils sont. Ou pourrait l'être. C'est rare qu'on le sache avec certitude. Si vous foncez et montez un dossier contre Marty ou un de ses gars, les preuves ont une drôle de façon de disparaître. Les témoins sont frappés d'amnésie et les affaires ont tendance à connaître une mort rapide en audience publique. Après quoi, parmi les flics qui étaient à l'origine de ces affaires, on ne compte plus ceux qui ont été rétrogradés ou affectés ailleurs. Alors, si vous vous attaquez à la bande de Butler, vous avez intérêt à ne pas vous rater. Pas si certaines petites choses vous tiennent à cœur, comme par exemple un salaire décent, une retraite à la fin de votre carrière ou un toit au-dessus de la tête. Des conneries de ce genre. Claire a une connaissance des tenants et des aboutissants des mœurs dans la police que les autres dans la famille n'ont pas. Elle tapote la main de Bobby et lui dit «
Sois prudent. Aucune vie ne vaut que tu perdes la tienne. »
Bobby a participé à une guerre, bon d'accord, une opération de police, dans un pays situé à près de 15 000 kilomètres en essayant de prouver le contraire. Nancy, toujours la première à appuyer là où ça fait mal, ajoute son grain de sel.
« Et puis tu dois penser à Brendan. »
Brendan est le fils de Bobby. Il a 9 ans et vit avec sa mère. Sauf le week-end, où il vient ici passer 48 heures avec son père, 5 tantes gâteaux un peu dingues, et l'oncle Tim, le gentil prêtre raté au cœur sombre. Bobby aime Brendan d'une façon qui défie toutes les idées qu'il a pu se faire de l'amour avant que son fils ne vienne au monde. Il l'aime au-delà de tout ce que peut concevoir la pensée rationnelle. Il l'aime plus que toutes les autres personnes, toutes les choses et tous les rêves réunis. Y compris lui-même, y compris les siens.
« Personne, dit-il à sa sœur, Pas même Marty Butler n'est assez dingue pour s'en prendre à un flic. Et même s'il l'était, il ne lui viendrait pas à l'idée de s'en prendre au fils d'un flic. Pas s'il veut encore voir se lever le jour suivant. Comment tu peux imaginer une connerie pareille, Nance ? Nancy, qui n'est pas du genre à reconnaître une erreur, esquive.
Je parlais pas de dommages physiques, Michael. Je parlais du risque de perdre ton boulot, ta retraite. Et dans ce cas, qu'est-ce que cette vipère tordue à laquelle tu étais mariée ferait de nos week-ends avec Brendan ?
Remarque pertinente,
dit Diane. Et même Bridget acquiesce de la tête. La famille de Bobby aime son fils presque autant qu'il l'aime. Même Tim, qui flotte dans un brouillard fait à la fois d'amertume et des lectures les plus ésotériques que Bobby ait jamais vues, parvient à s'éclairer le week-end. Et ce n'est pas juste parce que Brendan est leur seul neveu ou nièce. Brendan est, pour le dire simplement, un être merveilleux. À 9 ans, il est réfléchi, plein d'empathie, profondément curieux, drôle comme pas deux et chaleureux. C'est comme s'il avait hérité tous les bons côtés des membres de sa famille sans aucun des mauvais. Jusqu'à présent, en tout cas. Les sœurs de Bobby diraient
« C'est seulement parce que Shannon ne l'a pas entièrement pour elle toute seule. »
Mais la vérité est que Shannon est une bonne mère. Épouse épouvantable, et elle ne s'est pas montrée vraiment au-dessus de tout reproche non plus en tant que fille et en tant que sœur. Mais elle aime son fils. Et elle se consacre à son éducation comme jamais elle ne s'est consacrée à quoi que ce soit ou à qui que ce soit dans sa vie.
« Je ne vais perdre ni mon boulot, ni ma retraite, ni mon garçon, » dit maintenant Bobby à ses sœurs.
« Tant que tu fais pas le con avec Marty Butler. »
« C'est un putain de criminel, » répond Bobby. « Et moi, je suis flic. »
« C'est un criminel qui a des relations, » lui rappelle Claire. Marty Butler n'a pas que des flics dans sa poche. Il a des juges, c'est certain. Probablement au moins un membre du Congrès ou un sénateur du Massachusetts.
Et peut-être, mais juste peut-être, murmure-t-on dans les coulisses les plus sombres, quelqu'un, ou possiblement une demi-douzaine de quelqu'un, bien placé dans la hiérarchie policière au niveau fédéral. Au fil des années, trop de témoins potentiels contre Marty ou ses associés, dont les identités étaient pourtant gardées secrètes, ont disparu ou ont été tués.
« Je sais, » leur assure Bobby. « C'était des gamins qui ont pourchassé Augie Williamson dans la station. Et quoi que je découvre, ça n'a pas l'air d'être un assassinat. Probable que ça n'ira pas au-delà d'un homicide involontaire. »
Il bâille derrière son poing, épuisé.
« Mesdames, je vais au pieu. »
Il met sa canette dans la poubelle, donne un petit baiser sur la joue de chacune de ses sœurs et va se coucher. Après avoir pris une douche, il s'assied près de la fenêtre et fume une cigarette en regardant la nuit. Ce qu'il a dit à ses sœurs est vrai. Il doute que les jeunes ayant joué un rôle décisif dans les événements qui ont conduit à la mort d'Augie Williamson risquent de lourdes peines de prison. Et c'est cette constatation, il s'en rend compte maintenant, qui a provoqué en lui cette soudaine sensation d'épuisement. Il était aux côtés des parents Reginald et Calliope Williamson quand ils ont identifié leur fils à la morgue. Ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont pas poussé de gémissements. Ils sont allés de part et d'autre de leur fils étendu sur la table en métal et chacun a passé une main le long d'un de ses bras. Reginald sur le gauche, Calliope sur le droit. Puis, ils ont fait la même chose sur ses joues. Avec leurs mains, là, chacun en posant une sur le visage de leur fils, Reginald a dit « Je t'aime, mon fils. » Et Calliope a ajouté « Nous sommes toujours avec toi. »
Bobby a vu beaucoup de parents venir identifier un enfant mort. Cela fait quelque temps que ça ne le touche plus vraiment, mais la façon dont les Williamson ont contemplé leur fils, dont ils ont caressé ses bras et son visage, comme si, en faisant cela, ils pouvaient lui transmettre un peu de chaleur pour son voyage de l'autre côté, n'a pas quitté son esprit de presque toute la journée.
Si 4 jeunes noirs avaient pourchassé un jeune blanc, occasionnant le choc avec une rame de métro, il risquerait la prison à vie. En négociant et en acceptant de plaider coupable, il ne pourrait espérer mieux que 20 ans minimum de prison ferme. Mais les jeunes qui ont poursuivi Augie Williamson, Bobby le sait, ne risquent pas plus de 5 ans. Et encore. Et parfois, une telle disparité provoque en lui cette sensation de fatigue insupportable. Il finit sa cigarette et se met au lit. Quand il ferme les yeux, il voit les mains de Reginald et Calliope glisser très lentement sur les bras nus de leur fils mort. Ce n'est pas comme ça que vous aviez imaginé que ça finirait. 20 ans après lui avoir fait faire son premier héros et avoir changé ses couches. Bobby a tué 2 garçons dans sa vie. Il n'avait probablement pas plus de 18 ans. Il est possible que l'un d'eux n'ait eu que 15 ou 16 ans. Bobby n'a aucun moyen d'en être sûr. Il les a tués tous les deux au Vietnam, le même jour, alors qu'il défoliait les buissons près de sa base. La végétation offrait des cachettes au Viet Cong. La végétation procurait de la nourriture au Viet Cong. Alors, l'oncle Sam a envoyé Bobby et son peloton, ainsi qu'un peloton de sud-vietnamiens pour empoisonner toute la campagne autour de leur base. Ils avaient des pulvérisateurs à main et des camions pulvérisateurs. Plus au sud, ils utilisaient des hélicoptères. Un jour prochain, Bobby l'avait entendu dire, ils envisageaient d'envoyer des avions pour lâcher leur merde. Les gosses sont sortis des buissons de chaque côté de la route, des petits enfoirés tout maigrichons avec des têtes carrées et des fusils ou des machettes plus grandes qu'eux, en tiraillant et faisant tournoyer leur coupe-coupe, genre « ça passe ou ça casse, c'est maintenant ou jamais ». En l'occurrence, ça devait être jamais. Bobby en a abattu un d'une balle de son M14 en plein visage, avant d'être plaqué au sol, au milieu de la route, par un autre armé d'une saloperie de machette, mais qui n'a pas pensé à s'en servir avant de projeter Bobby à terre. Bobby a mis le canon de son calibre 45 sur l'abdomen du gosse et il a fait feu à 2 reprises. L'œsophage du gosse s'est éparpillé en petits morceaux. Bobby regardait le garçon dans les yeux tandis que les balles lui perforaient le corps. Il le regardait encore dans les yeux quelques secondes plus tard quand le garçon est mort, tandis que Bobby pensait « Pourquoi tu t'es pas servi de ta machette avant de me plaquer au sol ?» Ça, c'était à l'époque où le Viet Cong tâtonnait encore. Ce matin-là, Bobby et les autres gars en avaient tué 15, toute la bande. Un peu plus tard, les corps avaient été alignés sur la route. Et il était clair, à voir leur cage thoracique, qu'aucun de ces garçons n'avait mangé un repas complet depuis des mois. 2 d'entre eux étaient morts parce qu'ils avaient essayé de tuer le caporal Michael Bobby Coyne de Dorchester, dans le Massachusetts. Mais Bobby savait qu'en fait ils étaient morts parce qu'ils constituaient un obstacle. Au profit. À une certaine philosophie. À une vision du monde selon laquelle les règles ne s'appliquent qu'aux gens qui ne sont pas en charge de les établir. Appelez-les Niak, appelez-les Nègre, appelez-les Youpin, Mix, Métec, Rital ou Bouffeur de Grenouilles, appelez-les comme vous voulez, pourvu que vous leur colliez un nom quelconque qui enlève une couche d'humanité à leur corps quand vous les évoquez. C'est ça le but recherché. Si vous pouvez faire ça, vous pouvez faire en sorte que des jeunes hommes traversent des océans pour aller tuer d'autres jeunes hommes, ou vous pouvez aussi les faire rester ici, chez eux, et leur faire faire la même chose. Bobby est couché dans un lit moelleux et confortable, à 15 000 km et 12 ans de distance de ses garçons morts sur la route. Et il décide que demain, il ira épingler ses 4 jeunes de South Sea.